Amour.
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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel. C'est quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, mais toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires et rencontrer des experts de l'amour. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur mon site amour.lepodcast, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur ma page Instagram amour.lepodcast, sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode du jour. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander.
Bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi avec Héloïse. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Comment tu te sens aujourd'hui ?
Ça va bien.
Ouais.
Ça va bien. Je me suis levée de bonne humeur et je me suis bien activée ce matin. Donc,
ouais. Comme tu m'as montré justement.
Je me suis. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est une bonne journée qui commence.
Oui.
Il fait moins chaud, donc
c'est ça.
C'est un peu plus agréable.
C'est ça. Et donc on va parler d'amour de soi et surtout de lingerie, de prêt-à-porter, de sur-mesure. Pour moi, c'est un thème. En fait, à la base, je m'étais dit c'est un thème très féminin, mais en vrai, c'est un thème universel au final. Que, enfin voilà, c'est un super thème. Quand on m'a parlé de toi, bon, je parle déjà de ressenti. Mais quand on m'a parlé de toi, je me suis dit ah ouais mais c'est génial, et puis elle est à Toulouse en plus, donc du coup c'est pratique, mais c'est super sympa de se dire c'est du vrai local en fait, donc je trouve ça très très bien. Donc on va parler de l'amour, de la lingerie, d'Héloïse, de son parcours, de sa marque L'Accroche-Cœur. Et donc L'Accroche-Cœur, je vais parler directement du site, donc la boutique c'est l'accroche-cœur en minuscule .shop, S-H-O-P slash. Voilà, si vous voulez le trouver, je le mettrai en lien en barre d'infos. Mais voilà, déjà, comme ça, vous pouvez chercher des petites infos pendant que vous écoutez et regardez sur votre téléphone, du coup. Donc, on va parler avec Héloïse. Héloïse, est-ce que tu pourrais déjà me dire 2 défauts et 2 qualités que tu as ?
On va commencer par les qualités, je pense.
Ouais, tu préfères ? Parce que souvent, je préfère commencer par les défauts.
Ah, on peut
comme commencer. Tu veux, parce que souvent, on finir sur le positif. Mais si tu as envie de commencer par tes
commençons
qualités.
Commençons par les défauts, si tu veux finir sur le positif, il n'y a pas de souci. En défaut, probablement le numéro 1, je suis trop sensible. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir un petit souci ou quelque chose et que ça devienne 1000 fois trop amplifié et que ça prenne trop de... que ça prenne trop d'espace et que du coup que ça me parasite énormément. Donc ça fait partie de mes défauts.
Est-ce que ça joue sur ton travail ?
Ça peut jouer sur mon travail, ça peut jouer sur ma motivation et ça peut jouer sur des choses, que ce soit du perso ou du pro, ça peut jouer sur beaucoup de choses. Donc le fait d'être probablement trop sensible, en tout cas pour moi, c'est un défaut. Et un deuxième défaut, je suis beaucoup trop exigeante avec moi-même. Avec les autres, pas du tout. C'est-à-dire, je ne demande aucune exigence envers les personnes qui m'entourent. Mais moi, il est très important pour moi. Enfin, c'est trop même important. Voilà, je m'exige beaucoup, beaucoup de choses. Et si j'atteins pas l'objectif donné, ça va beaucoup me parasiter et beaucoup me rendre malheureuse aussi. Donc ça, c'est mes problèmes.
Ouais.
C'est des faux. En qualité, je pense que je suis extrêmement curieuse. Ça fait partie de mes qualités que j'exploite, que j'ai appris à exploiter avec le temps. Je pensais que c'était pas forcément nécessaire et très intéressant, mais en fait si, ça a été très, très bénéfique pour moi, la curiosité. J'en tire parti de plus en plus et ça me fait un bien fou. Et en deuxième qualité, probablement mon ouverture d'esprit qui est en lien avec ma curiosité. Oui, on peut dire ça, mon ouverture d'esprit. J'accepte beaucoup de choses j'accepte venant les autres, en fait. Je suis très... je vais pas m'offusquer pour
ouais. quelque t'es chose dans l'écoute et
ouais, ouais, coup, je ça, pense que ouais. l'écoute c'est quelque chose qui me ouais je pense que c'est de, ça peut être compliqué parfois, mais en général j'aime beaucoup, j'apporte pas forcément les réponses aux gens, mais écouter pour moi c'est très important, donc c'est une qualité que j'essaye de développer.
Ouais. Et ben écoute, en fait ça représente tellement ce que je ressens de toi, en fait. Même dans tes défauts, donc pour mon ressenti, même dans tes défauts, ta sensibilité, ça se ressent tellement dans ce que tu crées. Le deuxième défaut, c'était le côté très exigeante avec toi, mais ça se voit dans ce que tu crées aussi, en fait, parce qu'on sent que tu as le côté perfection. Et puis même le sur-mesure, j'imagine que tu dois te dire « je veux absolument que ce soit parfait pour la personne ». Donc tu dois t'imposer, j'imagine, quelque chose d'assez, d'assez strict, entre guillemets.
S'il faut reprendre trois fois un modèle, on le fait, on ne réfléchit pas. Et c'est très... on a en face de nous quelqu'un qui vient chez nous, qui vient en tant que client, donc du coup qui paye, etc. Donc, il faut absolument pas décevoir la personne que j'ai en face de moi. Donc, s'il faut reprendre trois fois, et même si je suis pas certaine le jour J, à l'essayage, que ce soit parfait, tout ça, il faut pas que je le montre, en fait. Et il faut vraiment aller au-delà de ce qu'on connaît et améliorer sa technique. Et du coup, ça demande beaucoup d'énergie.
Tu m'étonnes. Mais en fait, oui, ça te demande beaucoup d'énergie. Mais enfin, moi, je trouve que c'est presque une marque. Enfin, pour moi, c'est presque une qualité d'être exigeant avec soi-même, parce que tu as envie que les choses soient bien faites, autant pour toi que pour les autres, au final. Enfin, moi, je le vois dans le podcast, j'ai quand même envie que ce soit... Même... Enfin, à la base, il est... enfin, je l'ai fait pour moi. Donc, je me dis, moi, qu'est-ce que j'aimerais écouter ? Bah, toi, du coup, qu'est-ce que j'aimerais porter ? Et du coup, bah, c'est le truc de dire, bah ouais, j'aimerais écouter quelque chose d'assez perfectionniste, à mon image, en fait. Mais c'est oui, c'est peut-être un défaut, mais on peut en voir une qualité. Et puis après, dans tes qualités, quand tu dis la curiosité, mais effectivement, enfin, on le sent, parce que je sens même dans les photos, c'est tout est différent. Donc du coup, enfin, chaque collection est différente. Et on sent la diversité dans les petites photos qui représentent tes bodys, etc. Enfin voilà, tout ce qui est toutes les culottes, etc. On voit qu'il y a la diversité et qu'il y a... Enfin voilà, on trouve de tout. Des nanas aux cheveux bouclés, des nanas aux cheveux raides, des blacks. Enfin, il n'y a pas d'uniformité. Donc voilà, c'est pas une curiosité, mais c'est une ouverture d'esprit. C'est un mélange de curiosité et d'ouverture d'esprit. Et je trouve que ça représente bien ta personnalité. Donc moi, pour revenir sur comment j'ai connu Héloïse, j'ai connu Héloïse grâce à une amie, Anna, qui est photographe, d'ailleurs, qu'il faut que j'interviewe aussi, qui du coup m'a parlé d'Héloïse par rapport au fait que je parlais de l'amour de soi. Et donc elle m'a parlé très rapidement d'Héloïse. Et donc après, je me suis dit, bah ouais, en fait, elle prône exactement la même chose que moi. Et puis après, quand j'ai découvert ton travail via Anna, ça m'a... Enfin voilà, je me suis dit, mais oui, exactement. Et puis après, on a fait ce live et on a parlé de ça. Je crois qu'on s'était écrit un petit peu avant. Et puis voilà, et puis on en est là aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que comme on discute un peu avant l'interview, je sens que oui, c'est quelque chose de très... Oui, c'est de l'amour de soi. Et puis quand tu me parles, bah, on va parler après de comment tu fais pour créer juste... Enfin voilà, les bases, entre guillemets, pour créer une lingerie. Enfin voilà, on sent qu'il y a de l'amour de soi... Il y a un petit peu de psychologie, j'imagine, aussi. Donc, mon ressenti était vraiment sur ça. Moi, je me suis noté deux choses. Le body Gabriel, mais il est ouf, je le trouve magnifique. Et en plus, tu peux l'accommoder avec un soutien-gorge que tu as fait. Je l'ai vu dans plusieurs modèles, j'ai trouvé ça beau. Et les menottes en cuir, mais j'ai trouvé tellement magnifique, tu vois.
Je prends une grande nouveauté pour l'accroche-cœur, parce que je n'avais pas encore mis les pieds dans l'accessoire.
Ouais.
Et pour moi, vu l'orientation que je suis en train de prendre artistiquement pour l'accroche-cœur, c'était hyper important pour moi de commencer par de l'accessoire érotique et de démarrer par des menottes, en fait. Ça reste un accessoire très orienté fétichisme, etc. Mais pour moi, il fallait que je parte là-dedans. En tout cas, faire un test.
Oui. Ah ouais.
Mais ça m'a beaucoup plu. L'exercice m'a beaucoup plu. Il était très différent de ce que je faisais de base et du coup, ça m'a pas mal plu.
Elles sont vraiment belles quand je les ai vues. Bah, si à un moment tu veux me les montrer, moi, si t'en as,
elles sont vraiment très belles. Ouais. Elles sont par là, quelque part dans l'atelier.
Mais ouais, du coup, en plus, tu m'as montré le cuir tout à l'heure. Il y a plein de choses, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et puis, t'as eu cette phrase que j'ai pas retenue, que t'as dû me dire pendant le live, c'était « Ce n'est pas le modèle qui s'adapte au corps, c'est la lingerie qui s'adapte au corps. » Non, c'est ça ? Ta phrase ?
C'est pas le corps qui doit s'adapter à la lingerie, c'est la lingerie qui doit s'adapter au corps.
Ouais. Tout
à
fait. Et ça a été vraiment quelque chose de marquant pour moi en me disant, mais oui, c'est ça en fait, c'est que la mode, comme il le véhiculait, parce que maintenant je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont de plus en plus uniques en fait. Là en ce moment, ils sont en train de parler, j'avais vu une marque, une maison, la maison Baume. C'est des bottes. Mmh. Ils commencent à adapter des bottes à la personne parce qu'en fait, quand tu vas acheter des bottes, elles ne sont jamais adaptées à personne. Mmh. Et en vrai, on a toutes des mollets totalement différentes. Et donc, du coup, c'est de se dire, en fait, à un moment, il faut revenir vers quelque chose de sur-mesure. Parce que sinon, en fait, tu portes un truc, tu vas le porter une fois et tu vas te rendre compte que non, en fait, ça ne te va pas. Et même des boutiques, tu vas rentrer une fois dans une boutique de lingerie, comme je te disais tout à l'heure. Moi, je suis rentrée dans plein de boutiques. Elles te mesurent dans une boutique, c'est un truc, dans l'autre, c'est l'autre. Et comme tu l'essayes et non, ça ne va pas, tu ne l'achètes pas et tu es dégoûtée de cette marque. Et donc, tu dis non, je ne vais pas y revenir en fait parce que ça me saoule. Et c'est le truc de revenir vers quelque chose où, on est unique en fait. Chaque être est unique. Et donc, c'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment le fait que c'est à la lingerie de s'adapter au corps. Et donc ça m'a vraiment... J'ai adoré ce que tu véhiculais.
C'est l'avantage d'être une petite entreprise et de faire du cas par cas. C'est que je peux m'adapter... davantage au physique des gens, et en fait c'est vraiment l'idée de faire de l'humain avant de faire de la production de masse et de la production textile en grande quantité. C'est pas l'objectif que je veux pour l'avenir, c'est vraiment de garder ce côté, c'est une notion qu'on m'a apprise récemment, mais c'est vraiment la notion d'humain et de partage, et se retirer un peu de toute cette consommation et en fait au lieu de s'acheter des choses en masse absolument, des choses qui vont pas forcément durer dans le temps, de plutôt avoir une pièce qui puisse être adaptée à la morphologie de la personne au maximum, et que en fait cette pièce elle va pouvoir la porter pendant X années parce que on sera plus orienté en termes de qualité, on sera plus orienté vers quelque chose qui durera dans le temps et de plus local et de plus respectueuse pour sa morphologie, au lieu de penser à des choses trop dans la consommation. Mais je pense que ça va être le cheval de bataille de tout petit créateur comme je le suis actuellement, c'est qu'on est trop, on essaye de lutter contre ça, contre la surconsommation, tout ça, même si je ne blâme pas du tout les gens qui le font, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de se payer des vêtements de créateurs ou des marques un peu plus luxueuses, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et c'est pas grave, je vais pas blâmer ces gens-là, et ça ne sert à rien de porter un jugement là-dessus. Mais c'est tout, il y a du public pour beaucoup de choses, et il faut aussi savoir, en tant que créateur, il faut aussi savoir se trouver et trouver son public. Et si le public est ok et que la clientèle suit derrière, c'est gagné quoi. C'est ouais. En tout cas, nous, en tout cas en tant que créatrice, tu peux évoluer davantage et te réorienter en fonction de ce que toi t'as envie d'exprimer en termes de visuel et en termes d'esprit artistique, mais aussi correspondre un petit peu à la clientèle que tu as. Enfin c'est beaucoup de notions croisées et beaucoup de recherches.
C'est ça, c'est de réflexion sur ce que tu veux véhiculer en fait.
Totalement, c'est pour ça que là j'ai pris le risque depuis quelques temps d'orienter davantage la lingerie vers quelque chose de plus érotique que d'habitude. Ça fait comme 5 ans que l'accroche-cœur existe.
Ouais.
Et sur 5 ans... Il y a 3 ans et demi, j'ai eu 3 ans et demi encore où je me suis cherchée, où j'ai vraiment cherché ma clientèle, où j'ai testé des matières, j'ai testé des couleurs, j'ai testé des coupes. Et là, maintenant que j'ai trouvé, que je pense avoir trouvé ma clientèle, je m'autorise des petits drifts vers des choses qui, moi, m'intéressent davantage, et je vois si derrière je garde ma clientèle ou si j'intéresse un autre style de clientèle. C'est risqué, mais pour moi c'est très important en termes d'évolution. Il faut constamment évoluer, surtout quand on a une petite entreprise comme ça, je pense qu'il faut constamment évoluer. Et si c'est pas le cas, ça peut marcher, hein, oui. Je dis pas, hein, oui. Mais c'est pas comme ça que je conçois mon entreprise. Ouais. En tout cas.
Et puis, enfin, c'est ton côté curieux aussi. Il y a le côté, il y a tous tes défauts qui ressortent, quoi, au final.
Totalement.
Ouais, du coup, t'as envie de, enfin, moi, je sais que t'as des idées, et puis, souvent, dans la création d'entreprise, moi, quand tu poses ton business plan, à la chambre de commerce, elle m'a dit, où vous voyez dans 3 ans. Mmh. Ok, donc t'es obligé de réfléchir réellement à ce que tu veux dans 3 ans. Bah oui, t'as forcément des idées, quoi.
Des attentes et des envies. Exactement. Tout ça, mais il y a une énorme différence entre le moment où tu vas créer ton entreprise et 3 ans après, où tu en es vraiment, et clairement, oui, il y a des trucs, tu fais ok, check, ça c'est fait sur la liste, tu le coches, c'est bon, quoi. Il y a d'autres trucs, tu dis, ah, j'aurais préféré que ça soit comme ça, j'aurais préféré que ce soit comme ça, mais moi, je fais souvent, j'ai une méthode, c'est-à-dire que tous les ans, je me pose et j'écris pendant 2 heures, et j'écris, en fait, je fais le bilan de l'année qui est passée, et je me dis ok, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça c'est ça j'aurais peut-être dû penser comme ça, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça se soit meilleur, et que tout ça, tous les ans je me fais une espèce de petite feuille comme ça, et j'ai un petit classeur avec toutes les années. Et du coup je fais une réunion entre moi et mes 15 autres personnalités. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu la réunion des fous dans ma tête, mais ça me permet de poser les choses à plat et de tout recentrer et de me dire ok, je vais dans telle direction, est-ce que je réoriente ou pas. Et pour moi c'est une méthode qui fonctionne beaucoup, et du coup la fiche d'avant je la ressors et je me dis ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, donc du coup il faut vraiment que je me reconcentre sur ça, ça c'est fait, donc on n'en parle plus, enfin tu vois, c'est vraiment c'est des objectifs que je me donne. Je peux pas avancer sans objectifs, sinon je me perds trop facilement. Le côté un peu artiste est toujours présent, mais il faut aussi penser que derrière, c'est très bien d'avoir son côté artistique, c'est ce que je voulais en créant la marque, mais c'est très bien aussi de se donner des vrais objectifs, quoi. Je suis absolument pas Jean-Paul Gaultier ou quoi, donc je veux pas avoir la prétention de me dire artiste, je suis artisan avant tout. Et l'artisanat, pour moi, c'est on travaille avec ses mains, et que avec ses mains, et que avec sa tête, et personne d'autre n'intervient. Pour moi, c'est mon métier, je le conçois comme ça. Jamais tu m'entendras dire « oui, je suis artiste », tout ça. La création, c'est de la création, pour moi, ça reste de l'artisanat. Donc là-dessus, je suis vachement terre-à-terre. D'où le fait d'être très... j'ai énormément de mal à me lancer des fleurs et à me dire « putain, je suis trop fière, c'est trop cool ». C'est fou, mais c'est comme ça. Je me dis « ok, j'ai réussi ça, on passe à autre chose ». D'accord. Et j'ai du mal à me reposer sur mes lauriers. Je suis vraiment pas quelqu'un qui me dit ok, ça c'est fait, on n'en parle plus, on part en vacances pendant 2 semaines et y a de là, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Non, genre moi je suis plus dans le ok, on a atteint ça comme objectif, on enchaîne, qu'est-ce qu'on fait après. Tu vois, j'essaie de toujours avoir un temps d'avance et de jamais me reposer sur mes lauriers. C'est quelque chose que je m'interdis. Sinon j'avance pas.
Mais c'est pas fatigant, c'est pas énergivore tout ça?
Ça l'aime, et je pense que j'ai suffisamment d'énergie pour m'y consacrer. Je suis pas hyperactive, je suis pas diagnostiquée hyperactive, tout ça. Mais depuis l'enfance, moi j'ai été éduquée avec cette notion de faire du sport, faire une activité. J'ai été très très stimulée en tant qu'enfant, et grand bien me fasse. Et en fait, très jeune, si j'avais rien à faire, je m'ennuie. Je m'ennuie, et c'est dans ces moments-là que je tombe dans un vortex qui est fatal pour moi. Et du coup, je suis très désorientée, je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai pas de projet, j'ai pas de truc, mais comment ça, et je préfère en fait dépenser de l'énergie, et quitte à me fatiguer 2 fois plus. C'est cercle vicieux, hein, j'en suis consciente. Mais je préfère me...
Mais c'est peut-être cercle vertueux au final, parce que du coup, ça t'amène peut-être d'autres choses... fois peut-être que dans ta réflexion, parce que cette histoire de se poser quand même, c'est génial de se poser pendant 2 heures et de réfléchir à ce que t'as vécu dans l'année, même si au final on se dit ah c'est 2 heures quand même, c'est beaucoup, et puis de se poser sur une réflexion sur une année, mais en vrai ça te fait avancer en fait. Donc, et ça te fixe d'autres objectifs pour l'année. Donc moi je sais qu'il y a des périodes, c'est pas l'inverse de toi, mais il y a des périodes où l'été Je trouve que là, on a en été tellement chaud que du coup, ça m'a bouffé de l'énergie et j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir faire plein de trucs, tu vois. Même pour le podcast, j'aurais voulu faire plein de trucs, mais j'étais tellement prise par l'énergie de l'été, de cette chaleur, que je me suis dit, ah bah non, là, tu peux pas aller plus loin, il y a ton fils, etc. Mais après, enfin voilà, je trouve que les personnes comme toi qui, justement... Enfin voilà, ne peuvent pas s'ennuyer. Je trouve ça hyper... Enfin voilà, c'est tout à votre honneur, quoi. Parce que moi, il me faut un petit peu d'ennui pour avoir de la créativité, en fait. De me dire, il me faut une temps de pause, vraiment une bonne temps de pause pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je veux véhiculer. Ou bah, voir des amis, simplement, et de me dire, non mais vas-y, tu te prends un week-end, là, et tu réfléchis à autre chose qu'au podcast. Bon, j'y arrive pas, hein. Il y a forcément un moment dans le week-end où je vais y réfléchir. Mais où je me pose en me disant, non mais là t'as besoin d'une pause pour équilibrer le truc, parce que sinon t'es tout le temps dans le truc et en fait y a plus rien qui vient, t'as plus de créativité, il me faut vraiment un gros moment de pause. Et bah là c'est arrivé ce week-end, et en fait ce matin j'avais plein de trucs à noter, hier soir c'était pareil, parce qu'il me faut un moment d'ennui, en fait. Ouais, mais après chacun a sa créativité totalement différente, tu vois,
chacun a sa manière de faire, c'est ça. Et le monde serait trop ennuyeux si on était tous pareils.
Exactement. c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, bah on va en venir à mes questions classiques. Comment as-tu créé, alors à la base peut-être pas l'accroche-cœur, mais comment t'es venue cette passion pour la couture, pour la, bah ensuite pour la lingerie, parce que j'imagine qu'il y a eu d'abord la couture peut-être et puis la lingerie.
Tout à fait.
Donc est-ce que ça vient de l'enfance ou
Alors, comme je disais juste avant, j'ai une maman, en fait, je fais partie d'une fratrie, donc je suis la dernière.
D'accord.
J'ai deux grands frères. Et en fait, ma mère est quelqu'un de très... qui stimule énormément. C'est quand on la voit, etc., elle se considère même pas... Enfin, pour moi, c'est même pas une maman. Pour moi, c'est une animatrice de colonie de vacances. Enfin, genre, vraiment, elle a une fibre avec les enfants qui est très, très présente.
C'est son métier ou...
Non. Elle l'a fait à l'époque. Mais du coup, avec ses enfants et avec ses petits-enfants, elle est très, très, très stimulante. Et je trouve ça incroyable de réussir à avoir ça, de donner ça dans l'éducation d'un enfant dont j'ai bénéficié.
Ouais.
Et en fait, c'est une maman qui m'a... Particulièrement, j'ai su tenir les choses par moi-même dans mes propres mains, qui m'a très vite stimulée à tout ce qui était travaux manuels. Donc, c'est passé par toutes les phases possibles et imaginables. À 4-5 ans, je faisais déjà de la broderie et du canevas avec elle. J'ai fait beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai fait tout ce qui était possible de faire, du bijoux, des pâtes à modeler jusqu'à de la pâte fimo. Voilà, j'ai fait beaucoup d'activités sportives, mais surtout beaucoup d'activités aussi manuelles. Et en fait, la couture, c'est venu assez naturellement parce que ma mère est autodidacte en couture depuis X années.
D'accord.
Et elle me faisait, quand j'étais petite, mes vêtements et mes costumes. J'arrivais avec une demande, là, maman, là, Halloween, j'aimerais être déguisée en vampire, en machin, et en fait, c'était assez rare qu'on aille acheter des costumes, c'était plutôt, on allait acheter un patron ensemble, et elle me faisait mon costume. Et du coup,
le rêve, quoi, pour un enfant.
De mes 7 ans à mes 14 ans, à peu près, j'avais, tous les ans, ma mère me faisait un costume, mais des trucs vraiment fous, quoi, genre des trucs poussés, en plus, comme ça, qui lui prenait beaucoup de temps. Et elle adorait faire ça. Elle m'habillait comme si j'étais sa poupée en soi. En tant que son dernier enfant et sa seule fille, du coup, elle a pris plaisir de ouf de m'habiller, quoi.
Elle le faisait avec tes frères, de leur demander ou pas les costumes?
Elle l'a fait, mais c'était un peu différent parce que, mes frères étaient plus orientés sur des activités sportives. Mes parents nous ont jamais mis de frein sur « tu veux faire ça comme activité sportive, tu le fais, mais tu vas jusqu'au bout. » Ou en tout cas, tu t'éclates et le jour où t'en as marre ou tu feras autre chose. Tu vois. Donc mes frères se sont plus orientés vers des choses plus sportives. À cette époque-là, j'ai beaucoup plus développé ma créativité. Je suis allée dans le sport après, parce que j'ai dansé pendant 15 ans. Enfin bref, on en reviendra après parce que c'est ça en lien. Et en fait, moi, je me suis beaucoup plus orientée vers la créativité, le fait main, etc. Donc du coup, en voyant ma mère coudre quasiment tous les jours, en entendant, ça c'est un son qui est très familier pour moi, en entendant la machine à coudre, parce que ma mère avait une pièce spéciale où elle... Et je savais qu'en rentrant de l'école, si j'entendais la machine à coudre, c'est que voilà, elle était dans sa pièce, et du coup on la rejoignait, c'était un peu le confessionnal de la maison en plus. Et du coup, en la voyant faire, j'ai un petit peu appris à faire avec elle, à découper quelques patrons, à faire quelques coutures, ça s'est beaucoup, beaucoup fait naturellement. Je jouais énormément avec mes copines à l'époque. On faisait comme si on créait des maisons de couture, donc oui. Du coup des collections. Donc on dessinait, j'avais des carnets où les petites femmelettes, elles sont déjà dessinées, puis tu oui. dessines par-dessus ouais. les vêtements, etc. Donc ça, je faisais beaucoup déjà à l'époque. Je faisais beaucoup de dessins de vêtements.
Ouais.
Et après, mes études sont passées. Pendant tout mon collège et mon lycée, je me suis beaucoup orientée dans le sport. Et j'ai laissé un peu de côté mon côté créatif.
Et après, j'imagine que ta mère t'a moins... Enfin, c'est vrai qu'après, quand on est au collège, on est moins dans ce côté créatif. Ça dépend. Moi, je sais que je l'ai gardé, mais...
Je l'ai gardé aussi, ouais. Parce que je faisais beaucoup de pâtes fimo, surtout au collège. Mmh. C'était l'époque où je m'étais pris de passion pour ce truc-là. Et après, voilà, les choses sont venues très naturellement parce que je savais déjà dès le collège que je voulais faire des études... qu'il était hors de question pour moi que je travaille dans un bureau après en grandissant. Ouais. Donc à 13-14 ans, je savais déjà que je voulais faire quelque chose de mes mains en métier.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de... Il y avait beaucoup de choix possibles pour moi. Je me suis fermée à rien. C'est-à-dire que je m'étais pas dit « Ah, je veux absolument que je fasse ce métier. » J'ai voulu faire... j'ai voulu être dessinatrice, j'ai voulu être sculpteuse de pierre, j'ai voulu être... j'ai voulu faire de l'architecture, j'ai voulu faire de la métallurgie, enfin j'ai voulu D'accord. faire beaucoup de choses différentes, enfin ouais. ça a été très...
Beaucoup de manuels au final.
Ouais, c'était que des métiers manuels, ouais. que des métiers de création et de visuel et de... on crée quelque chose à partir de rien,
oui.
ou à partir d'une matière, etc.
Ouais.
Donc après mon lycée, je suis partie
en école d'art,
ouais. j'ai fait un an d'école d'art à Nantes et ensuite... j'ai eu l'opportunité de descendre sur Toulouse de manière absolument rocambolesque.
Tu veux nous le raconter ou pas?
Je peux, si c'est oui, permis.
Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ton épisode.
Non,
en fait,
tout simplement, j'ai eu des années de lycée très compliquées parce que je voulais pas aller en général et l'avenir a fait, enfin le temps a fait que j'ai fini en général contre ma volonté parce que toutes les écoles d'art que j'avais demandé à l'époque m'ont refusé. Et parce que j'avais...
C'était sur dossier,
c'était... Ah bah c'est... En fait, c'était la première année que de refus, j'étais en troisième et en fait, j'avais 14 de moyenne et en fait, ils m'ont refusé parce que j'avais pas la moyenne nécessaire et que j'étais sur liste d'attente.
14
ouais, 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 14. Ah, si, il fallait avoir les écoles que je voulais, il fallait avoir 15-16 de moyenne pour être considérée. Quoi.
D'accord.
Et en fait, on était plusieurs dans mon lycée, dans mon collège à vouloir aller dans cette école-là et j'étais celle qui avait la moins bonne de moyenne. Et en oui. fait, du coup, j'étais celle qui a été zappée. Ouais. Donc j'ai redoublé ma troisième exprès pour ça.
Oui.
Avec 14 de moyenne. Tous mes professeurs, non, il faut que tu partes en général. Il faut pas que tu continues, il faut que tu continues, tout ça, non, j'avais le soutien de mes parents qui me disaient non, si elle veut redoubler, ouais. Donc toujours cette notion de Génial. Parents derrière ouais. qui sont là, quoi,
ouais.
et c'est une sacrée chance d'ailleurs,
oui, c'est vrai.
Et en fait, j'ai refait mon année troisième, tous les professeurs, oui, pas de soucis, l'école est au courant, machin, et c'était l'année de la réforme scolaire, donc c'est-à-dire c'est l'année où ils ont commencé à inclure APB, enfin, le fait d'informatiser son dossier.
Les Parcoursup.
Parcoursup, etc. Ouais. Et en fait, je suis tombée, donc c'était la fameuse année de la réforme, oui. et en fait, j'ai fait partie dans ma région, mon dossier a fait partie d'un bug informatique qui a effacé, je crois que c'est à hauteur de 6000 dossiers dans ma région, et en gros, je faisais partie de ces 6000 dossiers. Oui. En fait, les écoles d'art n'ont jamais vu ma candidature. Donc en fait... Je suis partie en lycée général par dépit.
Ah mince.
Totalement par dépit. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est que en fait, en lycée général, je dansais déjà à cette époque-là, donc mm-hmm. j'avais touché plusieurs styles de danse. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est que pendant mes années de lycée, que je dédaignais absolument, je détestais aller au lycée, c'était lent. Pour moi, les trois années de lycée, ça a été un enfer absolu. J'ai même volé mon bac, littéralement. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est que je suis partie dans le cirque. Donc en fait, pendant 3 ans, j'ai fait du cirque. Donc j'étais spécialisée dans les aériens. Donc c'est-à-dire que je faisais du tissu aérien, du cerceau, du trapèze. Ouais. J'en ai fait pendant 3 ans. Et je m'étais imposé des rythmes d'entraînement très très durs. J'allais jusqu'à, je crois que c'est 13 heures d'entraînement par semaine avec la danse et le cirque liés. Ouais. Donc du coup, je me suis donnée à corps perdu dans mes activités autres que scolaires. Ça m'a sauvé littéralement mon lycée. Parce que je ne serais pas, grâce à ces activités-là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. De près ou de loin, c'est sûr et certain que j'aurais
pas. Ça t'a permis de souffler, en fait.
Ça m'a permis de souffler, ouais. et ça m'a permis de donner mon énergie dans un endroit où j'avais vraiment envie
ouais.
de le faire.
Ouais.
Donc, d'où la notion d'ennui. Moi, je ne peux pas vivre dans l'ennui. Il faut que je mette mon énergie quelque part.
D'accord.
Donc, ces années de lycée se passent. J'ai l'opportunité de partir dans une école d'art à Nantes. L'année d'école d'art se passe difficilement parce que c'était une année de préparatoire en art appliqué. Donc, année très compliquée, mais année très constructive en même temps parce que j'ai appris toutes les bases du dessin classique. Donc ça va du modèle vivant à la nature morte, à l'application des couleurs via plusieurs méthodes de peinture,
oui.
Un peu de sculpture. J'ai appris aussi à faire ce qu'on appelle de l'étude documentaire. Donc en gros, c'est reproduire un objet à la comme on peut voir sur tous les TikTok des dessinateurs, etc. Donc c'est reproduire un objet de manière réelle sur la feuille. Oui. Donc ça, je l'ai appris à l'école. Donc voilà, j'ai appris, grâce à cette école d'art, j'ai appris toutes les notions de base de l'artistique et de l'observation.
D'accord.
Très important pour moi, cette notion d'observer les choses avant de les dessiner. Et en fait, 70% du travail du dessinateur, c'est l'observation. Il y a le talent,
oui,
qu'on a ou pas, parce que moi, j'avais clairement pas le talent pour devenir un Picasso, ça c'est clair. Mais par contre, l'observation, ça m'a énormément appris, et ça reste encore aujourd'hui, moi, quelque chose de très important, surtout dans ma curiosité. Observer les choses, c'est aller en profondeur, et c'est se dire, ok, tiens, le coussin que j'ai devant moi, telle couleur, telle forme, une réplique de film que je trouve très juste, c'est regarder un nuage et qu'est-ce que vous voyez comme couleur dans un nuage. C'est pas juste du blanc et du bleu, c'est dans un nuage, t'as du vert, t'as des pointes de jaune, t'as du rose, t'as du rouge, t'as du bleu, t'as du gris à certains endroits. Enfin, c'est comment décortiquer un objet et comment décortiquer quelque chose qu'on a en face de nous afin de le reproduire ou afin d'en extirper l'essence créative et l'essence artistique qu'il y en a dedans. Donc, cette année d'école m'a énormément servi là-dessus.
Tu m'étonnes.
Voilà.
Ça a l'air, en tout cas, vu comment tu en parles.
Ouais. Ça a été quelque chose de très important. Donc après cette année d'école que j'ai quittée, l'école que j'ai quittée parce que j'étais pas du tout en accord avec certains professeurs. Enfin bref, c'était très sélectif et très trop pointu et les professeurs demandaient beaucoup et j'avais pas ce qu'il fallait techniquement en tant qu'artiste plasticienne, tout ça, j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour continuer en fait dans ces études-là. Donc j'ai après mon année de souffrance, j'ai arrêté. Et j'ai eu l'opportunité de venir à Toulouse via post-bac, etc. Mais ça a été un hasard total. Et du coup, je suis arrivée à Toulouse il y a 8 ans maintenant et j'ai fait un BTS métier de la mode. Là, on m'a appris toutes les techniques d'industrielle, de conception. Donc, en gros, je suis repartie avec mon BTS en poche. Et en fait, j'ai été diplômée en tant que modéliste. Donc, en gros, la nuance, c'est que la nuance entre modéliste et styliste est assez pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, et pas si éloignée. Mais en fait, si. Un styliste, c'est la personne qui va dessiner sur papier un concept, un vêtement, une idée, une ligne directrice. Et le modéliste, en fait, le styliste, c'est un peu le rêveur. C'est un peu celui qui va arriver, qui va dire « Ah, oh, je vois telle forme, telle matière, telle couleur, c'est super. » C'est un peu l'artiste.
D'accord.
Alors que le modéliste, c'est la personne qui va créer le vêtement.
Qui concrétise le projet.
Qui concrétise le projet. Et en fait, c'est un peu la personne qui va dire au styliste « Ah non, attends, ce que tu me demandes là, t'es sérieux là ? Non, non, techniquement, ce que tu demandes, c'est pas possible. Remets-toi un peu les pieds sur terre, donc calme-toi. » Donc... j'ai appris les notions techniques. Dans ces années d'études là, j'ai vraiment appris la technique. Donc c'est-à-dire poser une pince correctement, apprendre à travailler sur un mannequin, donc faire du patronage en 3D, apprendre à faire une gradation, donc c'est-à-dire des tailles. Mm-hmm. Donc ça m'a beaucoup servi par la suite. Ouais. Apprendre à utiliser des points différents de machine à coudre, savoir faire savoir poser de plusieurs manières une fermeture à glissière, savoir faire des poches, savoir faire de la couture à la main au niveau des ourlets. Donc t'as pas une technique, t'en as 15 qui existent. Donc forcément, après toi, tu t'aiguilles davantage, tu te fais les griffes sur ta propre technique, tout ça, et tu travailles, tu découvres, tu recommences, tu t'améliores, enfin voilà, c'est donc 2 années de technique totale.
Un peu de créativité, mais plus de la technique.
Donc, c'était le but de notre BTS en soi.
Et donc, après ce BTS, j'ai estimé que c'était pas suffisant encore devenir professionnelle.
Ouais.
Je savais déjà que là, je voulais vraiment m'orienter dans le vêtement après cette année de BTS. Donc, j'ai décidé de faire un CAP.
D'accord.
Couture pendant un an.
En fait, toi, t'as fait dans le sens inverse. Je crois que je l'avais déjà dit dans le live. T'as fait dans le sens inverse. T'as fait BTS puis CAP.
J'aime bien les parcours un peu atypiques. du coup, j'ai tout fait à l'envers. J'ai fini par cette année de CAP.
Oui.
Et pendant l'année de CAP, je savais déjà que j'étais déjà en train de penser. Ça m'a pris quand même 5-6 mois. Avec le temps de réflexion et le temps de lancer l'accroche-cœur, etc. Donc j'ai vraiment, pendant mon année CAP, profité de ça pour lancer par la suite l'accroche-cœur et vraiment m'orienter vers la lingerie. Voilà, un peu mon parcours.
D'accord.
Donc là, à l'heure actuelle, depuis avril de cette année, ça fait 5 ans que l'accroche-cœur existe.
D'accord.
Voilà, donc j'ai créé l'accroche-cœur vraiment l'année où je finissais mon CAP.
Ok, et j'imagine que par tes études, par ton parcours atypique, tu te dis bon, je vais le faire chez moi déjà, je vais le créer chez moi. Donc là, je suis chez Héloïse, et donc on est à la fois chez elle et à la fois dans son atelier qu'elle a divisé en deux. Et pour en venir au nom, moi j'aimerais bien savoir pourquoi l'accroche-cœur. Avant d'en venir après sur le parcours de l'accroche-cœur. Alors moi j'ai fait quelques petites recherches sur l'accroche-cœur. Donc il y a un film qui s'appelle L'accroche-cœur de 1938.
Oui.
C'est une pièce de Sacha Guitry.
Mm-hmm.
Et le synopsis que j'ai trouvé sur Wikipédia, ça m'a fait trop rire. Pas du tout en lien, avec toi. C'est une femme se fait enlever par son escroc après qu'il lui ait volé ses bijoux. Puis elle tombe amoureuse de son ravisseur. Donc voilà.
Sur un bon syndrome de Stockholm.
C'est exactement ça, c'est ce que je me suis dit. Les années, c'est ça, tu vois, années 30. Mais en fait, je trouve qu'il y a de ça aussi. Toi, t'es vachement dans l'air du temps passe. Enfin, dans l'air du temps, En fait, on est vachement dans les fringues aussi, je trouve, dans quelque chose où on est dans le passé, en fait. Donc, pas un regret, une nostalgie des vêtements du passé, tu vois.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a vachement de ça, je ressens vachement ça. Et donc ça m'a fait penser à ça, mais pas forcément en lien avec ce film, mais je pensais déjà à ça quand j'ai vu tes shootings. Et puis après, j'ai trouvé une définition d'accroche-cœur. C'est une petite mèche aplatie, en crochet sur la tempe ou le front, en vogue dans les années 20. Donc tu vois, c'est tout ça. C'est, je trouve que l'accroche-cœur, ça reflète vachement ça. Ce côté passé. Alors, je sais pas du tout si c'était ce que tu voulais véhiculer toi, mais vas-y, dis-moi tout.
Alors, c'est assez drôle parce que je cherchais un nom et le problème, c'est que j'ai tellement d'inspirations différentes. J'ai tellement il y a tellement de choses qui me font vibrer dans la vie de tous les jours et que j'essaie de retranscrire via mes créations.
Oui.
Ça a été hyper difficile de trouver un nom. C'est-à-dire que je voulais pas quelque chose de trop générique, je voulais pas quelque chose de trop facile, les ateliers de... je voulais pas quelque chose de trop simple. En fait, j'ai une énorme passion pour les années 20 et les années 30. Depuis très jeune, j'ai une énorme passion. C'est des époques... ça a été des époques très noires, entre les deux guerres, etc. Oui. Mais justement, en fait, ce qui m'inspire dans cette époque-là, c'est que... C'était vraiment l'époque où la Première Guerre mondiale se terminait. Il y a eu une renaissance, à cette époque-là artistique et créative, c'est-à-dire qu'en fait la Première Guerre se terminait et les artistes ont commencé à se réexprimer et les gens ont commencé à ressortir et à réexprimer leur joie, à aller danser, à aller sortir entre amis pour boire des verres, etc. Et puis c'est les années d'âge folle, quoi. C'est les années où les gens avaient besoin de ça, de joie et avaient besoin de faire la fête et de liberté. Ouais. Donc en fait, c'est une période pour moi qui est très très intéressante et à la fois ça montre que l'humanité, on sortait d'une période hyper compliquée. Par rapport à la guerre, à la Première Guerre mondiale, donc les gens ont eu besoin de relâcher la pression et de se sentir un peu plus libre. Bon, ça n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement,
mais c'est un autre sujet. Et l'accroche-cœur, oui, alors effectivement, je savais que c'était... En cherchant, j'y ai trouvé deux notions. Il y a la notion que tu as énoncée, donc, ouais. Cet aspect de coiffure que les femmes portaient dans les années 20 que je trouve ravissant. Oui. Enfin, c'était quelque chose que portait beaucoup, qui a été beaucoup démocratisé, notamment par la communauté noire américaine. Oui. Donc c'était, voilà, Josephine Baker, c'est une énorme inspiration pour moi, ouais. Tout à fait, ouais, c'est quelqu'un qui...
Il y a une expo à Toulouse, je sais pas
oui,
si c'est jusqu'au 10 septembre.
Jusqu'au 10 septembre
ouais, 18 septembre, ah. Je me la suis notée. Si tu veux, on pourrait y aller ensemble, parce que moi j'aimerais trop y aller aussi.
Mais je suis jamais allée, carrément. Mais du coup, ouais, donc je trouve ça d'une élégance absolue. Ça rappelle tout ce côté un peu liberté, ce côté fête, ce côté l'après de soi qu'on fait pour soi-même. Et il y a la notion beaucoup plus littérale de l'accroche-cœur, dans le sens que je trouve que le terme accroche-cœur, donc c'est accrocher son cœur, donc c'est être proche de soi et se faire du bien, en fait. Enfin, genre, il y a la notion vraiment d'accroche-cœur, donc c'est-à-dire proche du corps. Qu'est-ce qu'il y a le plus proche du corps, entre autres nos vêtements? Bah, les sous-vêtements.
Ouais.
Du coup, je trouvais que ça sonnait bien. Même si ça n'a pas toujours été... Enfin, là, je l'explique avec plus de clarté depuis quelques temps, mais ça a été hyper difficile pour moi de... Les gens étaient là, et alors l'accroche-cœur, pourquoi? Moi, j'étais là, bah, ça me plaisait. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Mais ouais, il y a vraiment... j'ai vraiment trouvé un lien, mais plus tard.
Oui.
En fait, le lien est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Et maintenant, je l'explique davantage parce que j'ai réussi à m'accorder avec moi-même.
Ouais.
Mais le lien est venu beaucoup plus tard. Ça, c'est sûr.
Et le logo, parce que du coup, c'est un L avec un cœur.
Ouais.
Est-ce que à la base, c'était ça, dès le départ ou
non.
Ça, non,
pas du tout. On en avait parlé sur le live, mais oui. Effectivement, le logo est venu d'une erreur totale. C'est-à-dire que à la base, le logo, c'était un L avec juste un apostrophe.
D'accord.
Et en fait, pour le L apostrophe de l'accroche-cœur, oui. Un jour, j'étais sur Illustrator en train de préparer mes cartes sur mesure que je vends sur le site internet. Tu peux acheter trois sortes de cartes différentes à trois tarifs différents, voilà, pour offrir, en fait. Oui. C'est un concept qui marche plutôt bien. Et j'étais en train de faire mes petites cartes sur Illustrator, en train de préparer mon illustration pour ça. Et en fait, j'avais le L de mon logo que j'avais ajouté en PNG sur le truc. Et j'avais rajouté sur les quatre coins des cartes, il y avait des tout petits cœurs noirs.
Oui.
Parce que bah, l'accroche-cœur, forcément, il fallait qu'il y ait une connotation, ouais, avec le cœur.
Oui.
Et du coup, j'avais mis ces petits logos, ces petits cœurs sur les quatre coins. Et en fait, je fais une fausse manip sur Illustrator. Donc, mes quatre cœurs partent à l'autre bout de la feuille. Et du coup, le L part en même temps. Enfin bref, je comprends pas ce que je fais. C'est l'époque où je savais pas trop me servir d'Illustrator.
Oui.
Donc c'est compliqué. Et en fait, je vais pour chercher sur la feuille. Et je me rends compte qu'en fait, le L et le cœur se sont superposés. Et en fait... ça a flashé dans ma tête.
Trop bien.
Et je me suis dit, ça rend vachement bien, en fait, le L vraiment accroché au cœur. Et du coup, c'est hyper cohérent, oui, avec le nom de la marque. Et c'est, ouais, hyper... et ça me ressemble. Et en même temps, ça fait un joli logo. Voilà, c'est pas si simple que ça. Ça, le logo, c'est quelque chose que vous pouvez demander à n'importe quel, je pense, créateur ou créatrice.
Oui, aussi, c'est
le logo, c'est, ouais, c'est hyper difficile à trouver un bon logo. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui changent de logo en cours d'année, oui, tout ça... Et c'est super parce que c'est signe d'un renouvellement.
Exactement.
Et en fait, voilà, donc c'est parti d'une erreur. Le logo est vraiment parti d'une bêtise de ma part. Et en fait, bah, j'ai retravaillé le logo en superposant et en enlevant une partie du L et en ajoutant le cœur, en lissant, etc. Et bah, je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien.
Ah ouais.
Et je n'ai jamais encore changé de logo, mais en fait, ce logo, je l'aime beaucoup.
Il est très beau. Et puis même du coup, sur ta lingerie, je l'ai vu là.
Ouais, ouais.
Ça rend quelque chose de... Enfin voilà, de toute façon, sur Instagram, on va voir ton logo noir avec le... Enfin, je trouve que le cœur, et moi, je sais que quand j'écris à quelqu'un, on me le dit souvent, bah du coup, quand t'écris à quelqu'un, on voit le truc amour, donc on a envie de te répondre presque, du, ouais, coup, même sur les mails. Ça marque, en fait. Et je pense que le cœur marque vraiment bien le truc de se dire, ah bah si, c'est, enfin voilà, c'est quelque chose d'important. Enfin, tout ce qui est lié à l'amour, je trouve que ça a quelque chose de, enfin voilà, c'est porteur. Et donc oui. Et puis le L, ça vient de me faire penser à love, tu vois, en anglais.
C'est
vrai. Ça peut être tellement, enfin voilà, il y a tellement de choses. Et puis de toute façon, chacun a son imagination dans un logo. toi tu peux y voir des choses, mais moi je peux y voir autre chose, etc. Donc c'est ça qui est hyper appréciable. Enfin, on peut tous avoir une créativité, une imagination dans un logo, enfin voilà, qui à la base était personnel et qui a été le hasard entre guillemets, mais enfin qui n'est pas dû au hasard, moi je pense. Mais voilà, du coup c'est quelque chose de fort, je trouve. Donc bah ouais, c'est très beau, autant le nom que la création du logo, je trouve ça très très beau. Venons-en, donc on a parlé du passé. Moi j'aimerais revenir aussi, je pensais à ta famille. Comment ils ont pris le fait que tu voulais faire ça? Comment tu t'appelles, toi, ton métier? Couturière, lingère, styliste?
Je préfère le terme créatrice.
Créatrice?
C'est vraiment un terme... alors, pour beaucoup de gens, c'est un terme très large. Ouais. Enfin, créatrice, comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu penser au styliste. Et c'est un peu le... je suis l'artiste, c'est super, voilà, je suis trop hype, tout ça. Alors que moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le terme créateur, oui. Il est plus terre-à-terre. Tu peux être créateur et être plus excentrique et être ultra extraverti, ouais. Etc. Mais pour moi, je me considère pas comme artiste, mais plutôt comme créateur. Donc, enfin, comme créatrice. Pour ouais.
Et donc comment ta famille a vu ce métier de créatrice, du coup?
Alors, mes parents ont... très bien pris la chose parce que...
Mais déjà en troisième du coup au collège.
Ouais, ouais, ouais. Mes parents étaient relativement fiers et la phrase qui m'a le plus marquée ce jour-là, c'est mon père. À l'époque, mes frangins avaient des entreprises, etc. Enfin bref, il y avait des projets de création d'entreprises, etc. Et mon père m'a dit cette phrase qui m'a énormément émue, qui m'a dit « J'ai fait 3 enfants, 3 entrepreneurs. » Et d'être considérée à même hauteur que mes frangins, ça m'a énormément touchée. Parce que du coup, j'ai senti la fierté de mon père, ouais. Et de ma mère. Ma mère, elle sera fière de toute manière. Ouais. Ma mère, c'est tellement... important pour moi, oui. Mais de gagner la confiance et la fierté de mon père, ça a été hyper...
Pourquoi t'avais l'impression d'être traitée différemment, traitée entre guillemets?
Alors, c'est pas être traitée, c'est que j'ai toujours senti... mes parents ont été éduqués de manière bien qu'école, c'est-à-dire que...
En fait, garçon et fille.
Alors, il y a eu ce côté, ouais. Garçon-fille. Mes parents, quand se sont rencontrés et qu'ils ont décidé de faire les enfants... ont pris la décision ensemble, je pense, là c'est vraiment pour moi le terme de couple, oui. Ont pris la décision ensemble que c'est mon père qui allait travailler et que c'est ma mère qui allait s'occuper des enfants.
D'accord.
Mais pas, mon père n'a jamais imposé à ma mère quoi que ce soit, ouais. C'est une décision qu'ils ont pris ensemble. Ouais. Aujourd'hui je considère que mes parents, c'est pour moi un modèle, c'est un énorme modèle, parce que ils sont mariés depuis très longtemps, ouais. Et pour moi c'est un couple d'adolescents.
D'accord.
Ils sont toujours restés adolescents, ouais. Dans leur tête. Donc pour
mais
moi,
c'est ça, voilà, en fait. Pour moi, c'est le but de l'amour aussi.
Ouais, hein. Bien sûr. Donc ça reste j'ai vécu dans un cadre familial très classique, très vieille école.
Ouais.
Mais je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, j'ai été éduquée comme une petite fille. J'ai été habillée en rose. Oui. J'ai eu des jouets de petite fille. Mes garçons avaient des jouets de petits garçons. Il y a eu ça. Mais à aucun moment, ma mère a fait de différence entre nous. C'était plus mon père. Mon père a plus eu cette notion de les garçons, les filles. Donc j'étais sa princesse, ses petits garçons, c'est comme ça. J'en ai jamais voulu parce qu'il ne mérite pas que je lui en veuille pour ça. Mais du coup, le jour où il m'a dit cette phrase... j'étais très fière, j'étais, mon père me considère plus comme une enfant,
okay.
Il me considère comme une adulte et en plus de ça me met à l'égal de mes frangins,
ouais.
Donc du coup ça a été pour moi hyper hyper bénéfique, ouais. Je me suis dit putain, je m'accomplis en tant que femme, ouais. Et non seulement je m'accomplis en tant que femme dans les yeux de mon entourage, mais aussi dans les yeux de mon père.
Ouais.
Donc du coup pour moi
la femme, enfin voilà.
Ouais, c'était vraiment plus cette notion là quoi. Donc non, ma famille l'a très bien pris et je suis très bien soutenue.
Oh,
j'étais très très bien soutenue.
Et du coup ils ont vu tes créations?
Ah oui, oui. Ah ouais. Bah, ma mère, c'est ma première...
c'est ton modèle, en fait.
C'est la première personne qui voit mes créations.
D'accord.
C'est elle qui a le... Qui va me dire... Enfin, je lui montre tout en gardant, moi, mon propre ressenti. Ouais. Mais c'est la première personne qui est en contact avec mes croquis et qui est en contact avec mes premiers prototypes.
D'accord.
Ouais, c'est quelque chose de très important pour moi.
Oui.
Ma mère, c'est ma première... C'est mon premier client type. C'est-à-dire que je vais lui montrer un modèle et si elle me dit bon, ça, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas mon style, mais, ouais. Mais j'aime pas trop, tu vois. Généralement, les modèles les moins vendus, c'est ceux que ma mère a moins aimés.
Ah ouais,
ouais, ouais, bizarre. Voilà. Bizarre. Donc elle a l'œil de lynx absolu. Donc je me fie énormément à sa pensée. Et oui, je montre beaucoup mes prototypes à des gens très proches. Je leur montre, mon chéri, c'est le premier, que dès que je monte un prototype sur mon mannequin, c'est le premier à voir ce que je fais, parce qu'on vit, non. Ma pièce à vivre est dans l'atelier, et l'atelier donc sont dans la même pièce. Ouais. Donc forcément, il voit constamment ce que je fais, et c'est le premier, même si lui, il me dit toujours, mais tu sais, moi, je ne connais rien, et tout, je fais, non, mais donne-moi, j'ai besoin d'avoir un avis, en plus, un avis masculin, enfin... C'est très important pour moi. Ouais. Alors, j'ai besoin de savoir ce que les gens pensent avant de faire quoi que ce soit. Enfin, pour voilà. je suis pas là à me dire ok c'est super ce que j'ai fait, c'est incroyable, on changera jamais et tout. Non, pas du tout. Pas du tout.
T'as pas d'ego quoi. Non, enfin, t'as moins d'ego comme ça.
Bah j'essaye.
Ouais, c'est ça. On essaye de le rabaisser.
De le rabaisser.
Ouais, c'est ça. Pour se dire il faut que je revienne à la réalité et souvent la famille est très. Bah justement, je trouve que la famille te ramène un peu à la réalité de te dire. Bah comme ta mère le fait, hein, en disant, bah non, en fait, ça, moi, j'aime bien, moins, donc oui, c'est hyper important, je trouve,
bien sûr.
Donc ça, oui, c'était plus ton passé, tes amis, enfin voilà, t'avais des amis qui étaient dans ce milieu-là ou pas du tout ?
Pas du tout.
Ouais ?
De mon groupe d'amis très, très proches, je suis la seule à faire ce genre de choses.
D'accord.
Et ils sont, ils me font énormément rire parce que... Quand ils me présentent, c'est je suis la créatrice, oh, tu verras Héloïse, machin, etc. Donc ça me tue de rire parce qu'en fait les gens qui me rencontrent après se rendent compte que je suis normale.
Parce que ils t'ont mis sur un piédestal.
Mes amis très proches ont tendance à me mettre sur des piédestals et en fait moi je leur dis non mais arrêtez, enfin, je suis hyper gênée, moi je suis là, non mais moi je suis comme tout le monde, hein, je... Ouais, quand j'ai pas envie de travailler, j'annule Netflix, quand je dépense trop d'argent dans tel truc ou dans tel voyage, dans machin, enfin, je suis pas, j'essaie de leur dire calmez-vous, calmez le jeu, je suis comme tout le monde, quoi.
En fait, le truc de ce côté création, c'est en fait de se dire c'est un métier à part, c'est quelque chose d'à part, en fait, moi je sais que dans le podcast... Enfin voilà, je suis sûre que si un jour mon fils il doit parler de moi, il va peut-être pas parler du côté infirmière, mais c'est surtout que, je sais pas toi, mais des fois t'en parles beaucoup. Enfin, moi, peut-être qu'au début t'étais comme ça, je sais pas si ça t'est venu, de parler beaucoup de ton métier au départ.
Oui, je me suis calmée depuis.
Ouais, début, tu vois, ça fait que 6 mois que je suis dedans, et t'en parles beaucoup en fait, en disant oh, j'ai fait ça, j'ai vu un tel, quelqu'un m'a contacté. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est pas que tes proches ils en ont rien à faire. Mais c'est que bah c'est pas leur vie en fait, du coup ils sont moins dans ça et tu te dis bah redescends un peu, c'est ton univers à toi et t'en parles etc, et en fait tu te dis bah en fait il y a pas que ça dans ma vie, il y a pas que ton univers, et bon ils parlent de toi effectivement, mais voilà, la vraie vie c'est pas ça en fait, la vraie vie c'est aussi l'univers des autres, et tu redescends en disant ouais il faut que je me calme. Moi, on m'a calmée une fois, j'ai été voir une invitée, elle m'a dit vous parlez, en fait vous venez pour, j'avais profité d'un rendez-vous perso pour à la fois faire du pro, et en fait elle m'avait dit mais vous parlez vraiment beaucoup du podcast. Oui, mais en fait c'est ma vie actuellement.
T'étais à fond dedans.
C'est ça. Et enfin voilà, ça faisait 3 mois que j'étais dedans, et donc du coup elle m'a cassée là. Je me suis dit ouais, peut-être qu'il faudrait peut-être que je me calme, mais bon après c'est ma vie pour l'instant, et c'est compliqué. Mais oui, la famille te remet aussi dans le droit chemin de te dire ouais, enfin il y a autre chose dans ta vie en fait, il n'y a pas que ça. Mais du coup ça fait du bien aussi des fois, je trouve que, et puis ils ont les mots en fait à force de la façon de faire et les mots pour te le dire, donc
c'est voilà ça. C'est pour ça que je voulais voir la famille et les amis comment ils le prenaient. À présent du coup ça fait 5 ans que t'as créé ta marque.
Tout à fait.
Aujourd'hui t'en es où? Du coup vu que tu fais ton petit point de 2 heures par an, quelle est l'évolution, quelles ont été les erreurs, quelles ont été les choses, voilà. Ce que j'aimerais dire aussi c'est, je t'en ai pas parlé avant, mais en fait j'aime bien aussi par exemple pour les gens qui vont vouloir faire ce métier de création de couture, quels apports tu pourrais leur donner? Quelles sont les erreurs que tu as faites et tu dirais à un jeune qui se lance, qui au début de son BTS ou au début de son CAP et qui se dit qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois pas faire, quelles sont les erreurs que toi tu as commises et que du coup tu conseillerais en fait, quel conseil t'aurais, mais large, hein, si tu vois des choses larges, très loin, au départ, quelles erreurs tu as faites ou quelques petits conseils que t'aurais positifs pour lancer ton entreprise, pour être dans la création de ton entreprise, pas forcément lingerie, mais dans la création d'une entreprise comme celle-là, de tissu en fait, de couture, quels conseils tu aurais?
Alors, le premier conseil, je pense, que je peux donner à un jeune, à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est arme-toi de patience. Arme-toi blinde-toi un petit peu avant, parce que tu seras confronté à des situations dont tu n'auras pas, que tu n'auras jamais vécu et dont tu n'auras pas l'habitude tout de suite. Et ça peut énormément contraindre et ça peut énormément faire peur. Donc le fait sois patient, n'aie pas peur, surtout n'aie pas peur. Parce que la peur, ça c'est un truc qui bouffe, qui moi m'a bouffé hein, pendant longtemps, la première année où je me suis... avant de me lancer, j'étais... J'ai eu l'avantage de prendre beaucoup de temps, enfin j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir et du coup je suis pas allée comme un chien fou en fait, j'ai vraiment réfléchi au projet, donc le jour où je me suis lancée je savais ce que je faisais, même si le jour où tu vas cliquer pour créer ton profil d'entrepreneur, ta main elle est comme ça, c'est compliqué quoi, donc beaucoup de patience au début, tu vas galérer. Vraiment, je veux pas mentir, tu vas galérer, ça va être très dur. La première année, un jour sur deux, tu vas pleurer parce que, enfin, moi personnellement, ça m'est arrivé. Mm. Mais la première année, t'as deux jours où tu fais wouh, c'est super, ouais, génial, putain, j'ai créé ça, c'est trop bien et tout machin. Puis après, deux jours après, t'es là en mode non, mais en fait, je suis rien, je suis personne. Enfin, tu te retrouves sous ton bureau à pleurer parce que t'as pas réussi tel truc. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, énormément de persévérance. C'est. Il t'arrive quelque chose de pas bien un jour, c'est pas grave, demain tu te relèves. T'as pas réussi à faire tel modèle comme tu l'aurais voulu, c'est pas grave, demain tu réessayes. Telle personne t'a fait telle critique, ça t'a fait mal, c'est pas grave, t'ignores. Beaucoup de... ok, prends du recul. Voilà, c'est une notion de... tu prends du recul sur ce qui t'arrive et tu respires un bon coup, tu prends... Alors la première année, les deux premières années c'est très compliqué parce que ça prend énormément de temps, ça prend 90% de ton temps et de ton argent, enfin c'est très compliqué, mais prendre du temps aussi, savoir faire des pauses, pas être tête baissée tout le temps parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fonce sans réfléchir, il n'y a rien de pire pour foncer dans un mur. Faut savoir aussi sortir un peu, lever un peu la tête.
Bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en fait moi j'étais à fond pendant 4 ou 5 mois et le jour où je suis ressortie, je me suis dit, bah en fait, t'es une acharnée, t'as pas pris de pause. En fait, j'étais pas... Je crois que depuis janvier, là, on est au mois d'août, depuis le mois dernier, je me suis dit, bah en fait, t'as besoin. Tu voyais pas tes amis, tu disais, non, mais il y a le podcast, il y a machin, le truc. Et en fait, c'est juste le mois dernier où je me suis dit, mais en fait, non, t'as besoin de pause. Et du coup, j'ai remercié les personnes que j'ai vues en disant merci de m'avoir fait rendre compte que j'avais besoin juste de plaisir, de sortir de chez moi et de plus faire que ça. Parce qu'en vrai, quand tu fais que ça, t'es dans le truc de dire mais merde, en fait, je suis en boucle là-dessus et en fait, non, t'as plus de vie et puis tu dis toujours la même chose, tu parles toujours des mêmes choses, t'es plus ouverte à l'extérieur. Et c'est ça, en fait. C'est juste prendre des temps de pause. Et j'en prenais pas, moi. J'étais dans le podcast et dans le fait de m'occuper de mon fils. Et en fait, non, c'est pas la vie. Il faut trouver un équilibre.
Ouais, bien sûr.
Et c'est ça, dans le début de création d'entreprise, c'est trouver un équilibre, te dire, non, mais il faut que je souffle, parce que là, tu pètes un câble, en fait. Mm-hmm. Même en posant tes idées, moi, j'avais... Mais tu verrais les murs de ma chambre, c'est... dès que j'ai des post-it à côté de mon lit avec un stylo. Dès que j'ai une idée, je le colle au mur et tout. Mais ça, en fait, c'est prenant parce que du coup, tu te réveilles, t'as les idées et tu dis ouais. Et en fait, tu dis, mais non, en vrai, non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie, en fait. C'est, du coup, tu profites pas, tu fais que ça. C'est génial, hein. Mais voilà, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de. il te faut des moments de pause, il faut que ton cerveau prenne du plaisir, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est comme tu dis, c'est tu y vois que le négatif, et en fait, tu t'encombres de dire, ouais, ben, pendant ces deux jours où t'as été dans le négatif, c'est, ça t'enfonce encore plus, c'est et ça. Tu dis, non, je suis une, entre guillemets, une pauvre merde, je me le dis moins, mais des fois, tu te dis, non, mais en fait, non, je peux pas faire ça, ça va, enfin, voilà, et en fait, si, mais c'est ton, en fait, bah, et puis même, ça t'apporte, parce que moi, du coup, bah, j'étais en pleurs avec la chambre de commerce, plusieurs fois, en me disant, non, mais je suis vraiment nulle, et elle me disait, non, mais vous inquiétez pas, là, vous prenez du recul, en fait, ça va vous forger ce que vous vivez là, mais continuez, vous avez la détermination pour, et en fait, c'est ça, le travail d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur, c'est ce travail-là personnel, où, enfin, t'es tout seul contre le reste du monde, en fait, à porter ton projet, à être dans une folie, être dans un truc, dans une hargne, dans une... Ouais, t'es investi, mais bon, les autres ne le comprennent pas forcément, mais toi, t'es dans ça, mais il faut, en fait, mais il faut des moments de pause, effectivement, il faut des gens qui te ramènent à ça, et moi, je remercie mon entourage de m'avoir amené à ça, parce que, enfin, on me proposait 50 fois de sortir, et je disais, non, je peux pas, ce week-end, je fais ci, je fais ça... Et au final, non, en fait, maintenant, je me rends compte que, bah ouais, t'as besoin de week-end de pause. Et c'est ça. Exactement ce que tu dis dans les conseils, les premiers conseils que j'aurais à donner en 6 mois, en simplement 6 mois. Peut-être avec le recul, l'expérience de me dire, ouais, bah, je l'ai vu aussi sur mon ex-mari aussi, d'être tout le temps dans le truc, non, il faut que je bosse. Mais en fait, t'es tellement dans le truc que tu t'épuises.
Ouais.
Et donc, oui, effectivement,
s'autoriser s'autoriser un peu de recul et un peu de souffler,
c'est essentiel,
sinon tu avances pas et tu te butes à des choses qui seront peut-être demain plus faciles à passer, quoi.
Exactement.
En tout cas, prendre le temps de temps, enfin, la première année compliquée, mais prendre le temps après, apprendre à prendre le temps, tout simplement.
Bah, c'est des beaux conseils. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, parce que tu as parlé de patience, de détermination, enfin voilà, de recul, de réflexion, c'est des remises en question aussi, du coup, mais est-ce que tu aurais d'autres choses plus particulières à... Parce que là, je trouve que tu parles vachement du monde de l'entrepreneuriat. En fait, c'est l'entrepreneuriat en général, je trouve que tu parles. Mais dans ton milieu, est-ce que tu aurais quelque chose de particulier ou pas spécialement?
Peut-être la notion de se faire confiance à soi-même. La notion de se dire « je suis capable de le faire » et de se prouver à soi-même qu'on est capable d'y arriver. C'est très générique, enfin, ça me paraît moi très générique de le dire, mais c'est se féliciter, je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais de temps en temps se dire waouh, j'ai réussi à faire ça, quoi, genre c'est cool. Enfin, et comme j'ai pu dire tout à l'heure, bon bah moi je suis plus en mode bon, allez, hop,
c'est terminé, cool, mais bon, voilà,
ciao, c'est bon. Mais vraiment prendre un petit peu le temps aussi de se dire tu te rends compte de ce que t'investis comme temps, tu te rends compte de là où tu vas. Et ça, généralement, c'est les gens qui me le disent. C'est des amis très proches qui m'ont dit, mais tu te rends compte, Héloïse, de ce que t'as fait, de ce que t'arrives à accomplir. C'est assez... juste savoir se dire à soi-même, waouh, je suis fière de moi-même. Je suis fière de moi-même d'arriver à ça et de waouh, quoi, c'est... se donner un petit temps de je l'ai fait, quoi. Et qu'est-ce que ça m'a apporté moi en plus, et qu'est-ce que je pourrais améliorer, et tu me demandais tout à l'heure au niveau des erreurs, etc. Bah oui, toute l'année tu fais des erreurs, enfin t'apprends à les contourner et t'apprends à les éviter au fur et à mesure que tu travailles, mais oui, des erreurs j'en fais oui. Souvent, ça m'est déjà arrivé de créer des collections qui n'intéressent pas du tout les gens, qui ne se vendent absolument pas. Ça m'est déjà arrivé parce que je suis trop partie en cacahuète dans ma tête et que j'ai eu une vision, j'ai suivi ma vision jusqu'au bout, je me suis éclatée à faire ma collection. Mais derrière, ça plaît pas du tout aux gens parce que c'est trop zarbi ou que que c'est parti trop loin dans des choses que les gens ne connaissent pas. Donc t'apprends tes erreurs, t'apprends de ok, là j'ai foiré, donc c'est pas grave, j'éviterai la prochaine fois de refaire ça. Faire des erreurs, au niveau des coupes, ça m'est déjà arrivé, donc de faire du sur-mesure et de faire des erreurs, surtout au début, quoi, en autodidacte, en lingerie,
Personne m'a appris à faire de la lingerie. À faire du vêtement, si, mais de la lingerie, c'est autre chose. Ouais. J'ai appris que c'était totalement autre chose.
C'est-à-dire ?
Ben, en termes de mensuration, en termes de coupe, en termes de matière, ouais, de matériel, c'est pas vraiment la même chose, quoi. C'est, ouais. Ça demande des points en couture très spécifiques. Les matières, tu peux pas mettre n'importe quoi. Ouais. Les coupes, bah c'est pareil, c'est pas, tu peux pas adapter, enfin c'est ça demande des choses, c'est très proche du corps, donc forcément faut que ça respecte le corps un minimum. Tu peux pas faire porter, tu peux pas mettre des matières ultra rigides à même le corps, oui, comme ça, ou alors c'est des demandes très particulières, des demandes plus artistiques, mais c'est très voilà, tu peux pas faire totalement n'importe quoi.
Ouais.
Et tu peux faire n'importe quoi, mais c'est à tes risques et périls, quoi.
Oui, oui.
Mais, ouais, voilà, il a fallu que j'apprenne beaucoup, beaucoup, et oui, des erreurs, j'en ai fait. Avec des clientes, c'est oui. Et généralement, c'était des... En plus, je suis tombée sur des clientes relativement sympas, en plus, quoi. Donc, ouais, des nanas qui savaient que je démarrais et que c'était tranquille, quoi. On, ouais, reprenait plusieurs fois. J'ai une cliente, elle est venue au moins 6, 7, 8 fois, ouais, avant que ça soit bien, quoi.
Comment tu fonctionnes, du coup, quand tu... Enfin, c'est les clients qui te contactent, les clientes, pardon, qui te contactent, ou c'est toi? Enfin, bah oui, du coup,
alors,
c'est
clients, ouais, client et clientes.
D'accord, maintenant t'as des clients, je savais pas.
Alors, je fais beaucoup de... Enfin, il y a une période où j'avais sorti un boxer très simple,
ouais,
masculin, très simple, très basique, et en fait, j'ai eu de la demande suite à ça, et j'ai aussi eu de la demande d'adaptation de lingerie féminine sur des corps masculins. Ça m'est déjà arrivé.
Génial. Ouais, ouais.
Et là, c'est des projets très particuliers parce que bah, c'est des hommes qui s'assument en tant que femmes.
C'est ça.
Ça m'est déjà arrivé une fois et en fait, la personne m'a contactée mais était hyper précautionneuse dans la manière dont elle parlait parce qu'en fait, elle disait « Oui, alors c'est un peu spécifique, vous allez peut-être trouver ça ridicule, tout ça. » Et la première chose que moi, je lui ai dit, c'est « Mais il n'y a pas de ridicule. Dans... Enfin, vous arrivez en tant que cliente chez moi, il n'y a, ouais, pas de ridicule à avoir. »
Moi, je trouve que c'est un acte hyper courageux.
Ouais, 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 surtout pas chez moi. Enfin, je ne suis pas du tout du genre à juger un style ou un physique. Enfin, je m'en fiche, en fait. C'est t'aimes comme t'es. Je n'ai pas à dire « Oui, non, il faudrait plus comme ça. » Enfin, je n'ai pas à dire « Ah, c'est bizarre, t'es un homme, mais tu t'assumes. » Non, enfin, genre, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de juger une personne par son apparence.
Ouais.
Et donc du coup, en fait, je l'ai tout de suite rassurée en lui expliquant que moi, j'étais pas là pour juger et que bah, du coup, ça l'a énormément rassurée. Alors, le projet n'a finalement pas abouti parce qu'en fait, on est tombé... c'était quelqu'un qui se mariait sur le monde et en fait, elle voulait de la lingerie très particulière pour son mariage.
Mm-hmm.
Et en fait, elle allait s'habiller en femme le jour de son mariage, etc. Okay. C'était très assumé de son, mm-hmm, côté, donc super, quoi, une super rencontre. Et en fait, le mariage est tombé, était annoncé, mais est tombé les mois de confinement.
De Covid.
Donc, ouais, donc du coup, ça a été annulé et j'ai pas eu de nouvelles par la suite. Donc, ça n'a pas abouti. On est allé jusqu'au croquis.
Oui.
Mais j'aurais adoré aller jusqu'au bout du projet et aller et créer, en fait, pour cette personne-là que j'aurais adoré. Vraiment, elle m'a accordé une confiance.
Oui.
Trop cool, quoi. Tout s'est fait par téléphone et vraiment, ça a été un super échange. Ça m'a, ouais, j'en suis ressentie, même si ça n'a pas abouti, j'en suis ressentie grandie de ça. Et généralement, pour revenir à la question, généralement, une cliente qui me contacte, elle le fait d'abord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle vient vers moi via soit les réseaux sociaux, soit le site internet, via mon numéro de téléphone.
Ouais.
Elle me contacte et me demande comment ça se passe, comment on procède, etc. Tout ça. Donc la première chose que je fais, c'est qu'on prend un premier rendez-vous, ouais, généralement ici, à l'atelier. Et le premier rendez-vous, pendant une heure, on va parler de tout, sauf de la lingerie.
D'accord.
Donc en fait, je les fais parler avant de créer. C'est-à-dire que j'en apprends davantage sur la personne avant pour pouvoir lui proposer une vision de ce qu'elle va m'inspirer au fur et à mesure de la conversation. Ouais. Donc généralement, pendant une heure et demie, on discute de qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle se sent aujourd'hui dans la vie, si elle a eu des traumatismes physiques, ça arrive pas, ouais, mal, et généralement c'est beaucoup de femmes, beaucoup de mamans ou de femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants, donc du coup qui ont du mal à accepter leur physique aujourd'hui, donc ça va des seins qui sont tombés, des hanches qui sont élargies, des bidons qui ont du mal à partir, etc. Mmh. Et en fait, donc elle me parle beaucoup, beaucoup de ça. Et bah, encore une fois, il y a la notion de non-jugement. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour vous dire, vous avez pas la taille mannequin, bah non, vous sortez, enfin, vous êtes pas fait pour ma lingerie. Non, pas du tout, ça me donnerait pas du tout l'esprit.
Donc, on discute pendant une heure. Après vient la fâcheuse partie de la prise de mesure. Là, généralement, c'est là que mes clientes me disent, ah, mais t'inquiète, je vais perdre quelques kilos d'ici 2 mois, j'aurai plus cette taille-là. Et je dis, je vous arrête tout de suite. Je suis pas là pour savoir si vous allez prendre du poids ou perdre du poids. Moi, je suis là. Les chiffres que je suis en train de noter me disent pas qui vous êtes à l'intérieur. C'est juste des chiffres dont je vais me servir pour faire en sorte que vous soyez jolie, en fait. Mmh. Pour faire en sorte que la lingerie, vous allez vous sentir jolie, en fait, en partant de chez moi. Les chiffres me disent pas qui vous êtes. Mmh. Donc, généralement, ça rassure.
Oui, parce que la société nous véhicule qu'on ait des chiffres, enfin voilà, un poids, etc.
Donc, j'essaye de leur rendre. Tout à fait.
C'est quoi les mensurations je sais plus, cette histoire de mensuration des mannequins, hein, qui sont pourries d'ailleurs. Je sais plus, mais bon, bref, c'est ces mensurations-là qui sont basées sur rien en vrai et qui font que bah, la société, alors, les femmes sont omnibilés par ça, alors qu'en vrai, enfin voilà.
Alors, comme je te l'expliquais juste avant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vêtements en général, l'industrie de la mode selon les continents va se baser, c'est à peu près tous les 5 ans, va se baser en fait sur la mensuration moyenne d'un homme et d'une femme. Donc, c'est-à-dire que ce sont des mensurations qui sont envoyées de différents pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Et en fait, les marques se basent sur ces moyennes de physique et créent leur taille en fonction de ça. Donc, c'est très bien de se baser sur les moyennes, mais on n'a pas toutes et tous le même... Enfin, on n'est pas tous et toutes calqués sur ces moyennes-là. C'est très bien d'avoir de faire une moyenne parce que bah, ça permet aux industries de ne pas se prendre la tête et de ne pas créer 12 000 tailles différentes. Et ça leur permet de, voilà, de fabriquer plus et d'avoir d'accéder plus à la demande. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit en lingerie ou en vêtements, qui ont énormément de mal à trouver leur taille parce que c'est pas adapté à leur physique, parce qu'on leur dit, bah non, on n'a pas cette taille-là, bah non, désolé, on peut pas s'adapter à ça, ça, ça. Et je pense que c'est là que moi j'interviens, en tout cas que les petits créateurs comme moi, on intervient. Comme nous, on fait du cas par cas, qu'on peut se permettre de faire du cas par cas, parce qu'on croule pas, on n'est pas à 100 commandes par jour, enfin voilà, c'est pas, on n'est pas à brasser 12 000 clients par mois, enfin, donc du coup, on peut se permettre en fait de faire du cas par cas, et de s'adapter au plus de plus possible, en fait, aux mensurations et à la morphologie d'une cliente X quoi. Donc c'est ça qui est très intéressant dans mon travail, c'est que tout ce qui est sur me, enfin il y a beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de psychologie, il y a aussi de la création, et en fait donc à partir du moment où j'ai commencé à parler avec elle, donc t'as tout le côté psychologique qui est là, oui. On fait des prises de mesure, donc moi j'ai déjà une base pour pouvoir travailler et pour pouvoir adapter un prototype de ce qu'elles veulent. Et après, là, de cette discussion, en vient la phase de création. C'est-à-dire que avant de créer, je leur partage à peu près 2-3 dessins, avec 2-3 styles différents, de ce qu'elles ont pu me dire sur elles, et de ce qu'elles ont pu me dire, ça j'aime pas, tel groupe j'aime pas que ça. Donc en fait, je leur propose 3 dessins, pas plus, parce que après, à partir de 3 dessins, après...
Le choix est trop compliqué.
Le choix est trop difficile, donc 3 dessins, c'est largement suffisant. Et après, elles vont me dire, j'aime cette couleur sur tel dessin, mais je préfère la coupe de tel dessin, mais je préfère le bas de tel dessin ou le haut de tel dessin. Et là, en fonction de là, on fait un petit mélange, là je sors mon petit shaker et on redessine une base et quelque chose qu'elles vont valider ou pas d'ailleurs. Ouais. Et là, après, je commence un prototype, pas dans les bonnes couleurs, mais avec les bonnes matières, etc. Donc on fait le prototype, elles reviennent pour essayer le prototype, on fait les ajustements du prototype sur elles. C'est très important pour moi. Et après, une fois que le prototype est validé, je lance la production, enfin je fais la production de la pièce finale. Elles viennent faire leur essayage. S'il y a des retouches à faire, on les fait. Et sinon, elles repartent avec leur ensemble. Et généralement, bah, elles repartent avec un sourire et des yeux que je n'avais pas vu au premier rendez-vous. Donc du coup, très intéressant pour moi.
Ah ouais, c'est hyper gratifiant en fait de dire, enfin voilà, j'ai créé quelque chose pour quelqu'un quoi, sur mesure.
Ouais.
Et quelqu'un qui au départ, enfin est venu avec ses petits trucs de « Ah non mais je vais maigrir, j'ai perdu du poids » et au final, enfin voilà, ça lui va quoi. Mm-hmm. Ça doit être hyper gratifiant, ouais.
Et c'est très intéressant de voir justement l'évolution entre, on va dire, en moyenne, c'est 3 rendez-vous,
ouais.
En moyenne. L'évolution entre le premier rendez-vous et le dernier est très intéressante, parce qu'elles arrivent au premier rendez-vous, déjà, bah, je les accueille dans l'atelier, donc c'est très, voilà, elles se sentent pas forcément toujours à l'aise au premier abord.
Mm-hmm.
Je leur explique très vite qu'avec moi, il y a
aucun problème, que vraiment elles peuvent parler, que si jamais la discussion dure plus longtemps, ça durera plus longtemps sans problème. Et donc elles arrivent avec, on a pris les mesures, etc. Donc premier rendez-vous un peu compliqué parce qu'elles ont encore leur complexe et du coup bah c'est très compliqué. Et généralement le troisième rendez-vous, elles arrivent, elles voient le modèle posé sur la table ou sur le mannequin, etc. Ah bah c'est, elles ont à peine passé la porte, elles ont déjà enlevé le t-shirt, elles sont déjà prêtes pour l'essayage et elles sont déjà plus à l'aise. Et dans l'idée que allez c'est bon, maintenant elle m'a déjà vue en sous-vêtements donc pas de jugement, donc pas de problème. Et moi ça me fait rire d'avoir des clientes, allez ok c'est parti, enfin genre elles enlèvent déjà le t-shirt et moi je suis là, attends tu veux pas on boit un café, non laissez-moi l'essayer et tout, j'ai trop hâte de l'essayer, enfin c'est super, moi je trouve ça génial. Il y a vraiment une libération du corps au fur et à mesure des rendez-vous que je trouve magique, pour elles autant pour moi. C'est ouais, franchement il y a ça, c'est magique, dans ma tête c'est magique, enfin, vraiment.
Tu m'étonnes. C'est vraiment beau. Donc on a parlé de ça et après moi je voulais savoir au niveau de tes partenariats, parce que en fait j'ai vu que tu avais fait, alors Mehdi Saad, je le connaissais, j'avais vu déjà quelques photos et j'ai été surprise, je me suis dit ah mais tiens elle collabore avec lui. Et il y a plein de choses, plein de collaborations que j'ai vues. C'est eux qui te contactent, c'est toi, comment ça se passe tous ces partenariats?
Alors ça dépend, c'est parfois moi, parfois eux.
Ouais.
Ces collaborations, c'est un petit peu comme ma cour de récréation à moi.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un peu l'espace et le moment, ou en tout cas le shooting, où je vais créer une pièce qui sera pas forcément vendue derrière.
Oui.
Mais ce sont des pièces qui, pour moi, sont totalement libres et artistiques. Donc c'est-à-dire que je... C'est pas que je m'amuse pas dans le prêt-à-porter et dans le sur-mesure, pas du tout. Mais je me permets des choses dans ces collaborations que je ne ferais pas sur une collection ou sur un sur-mesure avec une cliente, avec une cliente classique. C'est-à-dire que là, je m'interdis rien. Si j'ai envie de créer une collerette élisabéthienne de forme rocambolesque avec des couleurs, et si j'ai envie de faire porter à une modèle un harnais en cuir avec des grosses sangles, ou si j'ai envie de créer un body en PVC transparent rouge, ou si, enfin voilà, je m'interdis absolument rien. Et en tant que créatrice, c'est vraiment le moment où là où je me sens le plus artiste, même si je le mets entre très gros guillemets, parce que je ne veux pas me connoter en tant qu'artiste, c'est faux, pour moi je ne suis pas une artiste, je suis une créatrice, mais c'est le moment où je laisse libre cours à mon imagination, et généralement les collaborations naissent de gens en qui j'ai confiance, des gens que je rencontre au hasard de projet, ou qui j'entends parler, etc. Et du coup, c'est autant eux que moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont me dire « Ah, t'as bossé avec un tel, est-ce que tu pourrais nous faire une pièce unique pour tel projet, tel shooting ? On a telle vision en tête, tout ça. » Donc je vois un mood board, je me dis « Putain, en gros, vas-y, je fonce. Le mood board est trop cool. L'équipe avec qui on va travailler est trop chouette. Allez, c'est parti, j'y vais. » Et à l'inverse, moi, quand
un mood board, c'est quoi exactement ? C'est des visuels de ce qu'ils voudraient ?
Totalement. D'accord. Un mood board, en fait, le mood board, c'est le terme anglais. En français, on appelle ça une planche tendance.
D'accord.
Et c'est un document qui regroupe en fait une ligne artistique de ce que tu veux représenter sur un shooting. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont à la fois des couleurs, à la fois des inspirations, des matières, des dessins, du texte aussi, ça peut être du texte. En fait, c'est tout ce qui va t'inspirer pour... tu vas mettre sur un papier tout ce qui va t'inspirer en fait pour créer une collection. C'est très varié, c'est-à-dire qu'il y a des...
Au final, ça peut ne pas être ça totalement, ou si quand même.
Non, il y a des moodboards. En fait, le moodboard va en fonction du créateur. C'est-à-dire, aucun créateur ne va faire le même moodboard, ou en tout cas va avoir la même vision.
Oui.
Donc c'est vraiment un résumé. Le moodboard, c'est très compliqué à faire, parce qu'en fait, un moodboard, c'est vraiment le résumé de ce que t'as dans ta tête. En fait, quand t'as l'équivalent de 12 millions d'idées dans ta tête, c'est très difficile de tout rassembler dans un mood board et d'être cohérent. Parce que c'est l'avantage du mood board, c'est que tu te rends compte en fait de la cohérence ou non de ce que tu as en tête. Et après, tu as juste ton mood board en fonction. Mais le but du mood board, en fait, c'est de pouvoir expliquer très rapidement la vision que tu as eue à quelqu'un d'autre. C'est ça le rôle d'un mood board en général.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc oui, tes partenariats, c'est vraiment... t'exprimes ta folie en fait.
Oui, puis généralement c'est du coup de cœur, c'est-à-dire on se rend compte sur un shooting plus pro avec quelqu'un, que ce soit un maquilleur, une coiffeuse,
une photographe. Parce que du coup, avec Anna, j'imagine que des fois, vous devez exprimer plutôt vos folies à toutes les deux, non ?
Alors Anna, ouais, c'est vraiment, c'est un peu ma partenaire du crime là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, avec Anna, c'est à la fois très cool et très dangereux qu'on travaille ensemble. Généralement, avec Anna, on a une idée, ou elle ou moi, on a une idée.
Oui.
On va se voir pour en parler. Et je vais repartir de chez elle ou elle va repartir de chez moi, on aura 22 idées. C'est ça qui est compliqué avec Anna, c'est hyper intéressant de travailler avec elle parce qu'elle fait partie de ces gens pour qui c'est facile de parler, c'est pour qui c'est facile de montrer une... Elle comprend tout de suite,
ouais,
elle comprend très vite. Et du coup, on s'accorde très rapidement sur ce qu'on peut faire ou pas faire, ou en tout cas ce qu'il faut organiser, oui, etc. Et c'est à la fois très cool et très dangereux, parce que justement, bah, c'est pas dangereux dans le sens dangerosité, mais c'est qu'on peut très vite se perdre toutes les deux. Et comme on a un esprit très libre et très créatif chacune de notre côté, c'est... quand on le regroupe, ça peut faire des étincelles et en même temps, ça peut totalement aller en contradiction. Enfin, c'est hyper enrichissant. En fait, Anna, on s'est rencontrés parce qu'elle a posé pour moi sur une des toutes premières collections que j'ai faites. Et on a très vite compris que voilà. Bon, j'ai très vite compris en me balançant sur son compte que déjà qu'elle n'avait pas peur de la nudité,
ouais,
et que le fait de faire des autoportraits, je trouvais ça très intéressant parce que c'était à la fois s'exposer aux yeux des autres, mais aussi s'accepter en tant que femme.
C'est ça.
Et en fait, j'aime beaucoup ce genre de vision qu'elle a d'elle-même. Et elle a ce côté très... quand on la voit en photo, elle a ce côté très carré, femme posée,
ouais,
qui sait où se placer, qui sait comment être, qui sait comment regarder. Et à côté, elle a cette... elle a un ange et un diable sur les épaules. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un côté très créatif, un côté très stable... Et à tout moment, elle a un côté où ça va partir en folie.
J'allais te dire désinvolte, en fait.
Ouais, totalement. Elle est désinvolte, ouais. Anna. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'entend très bien. C'est parce que voilà, c'est... Moi, je pense la comprendre.
Oui.
Et elle me comprend très bien aussi. Ouais. Donc ça match, quoi.
Oui, oui. Je sais même plus c'était quoi ma question de base. Je sais même plus du tout.
On parlait des collaborations.
Oui, des collaborations. Donc ouais, du coup c'est, enfin voilà, c'est, oui, c'est ton côté folie et ton côté, enfin avec Anna je le sens très bien quand elle poste quelque chose et je me dis ah ouais, c'est vraiment leur côté à toutes les deux. Donc c'est vrai que, enfin, il y a une différence entre ta collection et tes partenariats au final. C'est
toujours,
vrai que quand tu me parles là de ce que, enfin je le ressens dans ce que tu dis sur Instagram, vraiment tu sens la différence. Finir, Héloïse, j'avais une petite surprise pour toi. De quelqu'un que tu connais. En fait, je vais te le faire deviner, tiens, pour que tu saches un peu qui c'est. Hey Héloïse, j'espère que tout d'abord que tu vas bien. Je t'adresse ce petit message pour te remercier de la confiance que tu m'as apportée pour réaliser notre premier shooting ensemble. J'ai vraiment apprécié travailler avec toi, c'était vraiment chill et bonne ambiance. Le genre de shooting que j'aime, j'espère que d'autres expériences suivront. En attendant, je te souhaite le meilleur pour la suite, que tu pourras t'épanouir comme tu l'entends et que tu puisses continuer à faire ce que tu aimes. Je te fais des bisous et à très bientôt, j'espère. Je te dis pas le nom.
Ok.
Tu penses que ça pourrait être qui ? Quelqu'un avec qui t'aurais fait une collab ?
Ouais, peut-être quelqu'un avec qui j'ai bossé au mois de juin, je suppose que tu sais qui c'est ? Enfin, tu connais toi, tu...
Vas-y, dis-moi.
C'est Mehdi, non ?
Oui, c'est Mehdi.
Trop drôle. Génial.
Et je l'ai contacté, du coup, pour qu'il te fasse un petit message. Et il m'a envoyé, je crois, une petite photo. C'était ton shooting, ça ?
Ouais.
Trop beau.
Trop cool. Ouais, vraiment, c'est le shooting qu'on a fait ensemble, ouais.
C'est vraiment génial. Et du coup, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, il a voulu te faire un petit message. C'est à la base, souvent, je demande souvent des vocaux, mais il paraît très réservé,
Il a sa personnalité, ouais.
D'accord. Et du coup, je lui dis, un message écrit, si tu veux.
C'est très bien aussi, ouais.
Ouais,
ah,
ouais.
C'est adorable, ça me touche.
Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire, du coup ?
Eh ben, déjà, merci, parce qu'il a fourni sur ce shooting un œil différent de ce que je... Enfin, j'essaie toujours de travailler avec des gens différents, quoi qu'il arrive. Et l'œil qu'il a amené sur le shooting a été très, très intéressant, autant pour lui que pour moi et pour la modèle. Enfin, en fait, on a fait un super trio ce jour-là. Et du coup, le remercier de ça parce que c'est une personne assez voilà, qui sait comment travailler, qui a son style, etc. En termes de photographie, il est quelqu'un de très intéressant. et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et si ça se fait, si on peut retravailler ensemble sur un autre projet, vraiment, c'est avec joie. Ouais. Parce que ça s'est très très bien passé et que voilà quoi, c'est...
Moi, j'avais suivi son travail déjà avant de voir que tu travaillais avec lui. Parce qu'en fait, souvent dans Toulouse, je trouve que Toulouse est un petit milieu, en fait.
Ouais.
Et tu rencontres une personne qui connaît une autre ou qui partage quelque chose sur les réseaux sociaux et tu connais la personne. Et du coup, Mehdi, je connaissais son travail. Et quand j'ai vu que vous aviez collaboré, j'ai adoré. Je me suis dit, non, ça va faire un truc de fou. Et c'est vrai que, enfin, toutes tes collabs, il y a des choses que... Enfin, voilà, Simone, je crois. Je me souviens plus.
Laura, ouais.
Ouais. Mmh. Du coup, pareil, je me suis dit, mais c'est génial toutes les collabs que tu fais. Et donc voilà, donc j'ai choisi Mehdi. Je me suis dit que c'était pas mal.
C'est très cool. Ouais, c'est très très cool parce que c'est le dernier en date avec qui j'ai travaillé. Ouais. Et en fait, on a beaucoup. On a bien accroché sur beaucoup de choses et on s'est plutôt bien entendu. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un de très. Ouais, j'aime beaucoup sa manière de penser. En fait.
Voilà. Ben super, merci Héloïse. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Donc on a parlé, enfin on n'a pas parlé vraiment de ton site, mais voilà, son site est très très beau.
Je vous invite à aller le voir.
Mais oui, simplement. Je vais le redire. Le site c'est en minuscule l'accroche-cœur, lacrochecoeur.shop/. Donc voilà, et il y a des univers, il y a aussi le book. Qui est vraiment, tu me disais que c'était, c'était des projets, c'était pas vraiment... Oui, c'est ça, c'est des partenariats, voilà, ouais. C'est vraiment ce que tu expliquais.
Sur le site internet, effectivement, le book, ça regroupe en fait tous les projets artistiques que j'ai pu faire à côté des collections.
Ouais.
Donc c'est des... C'est l'exutoire, c'est la cour de récré.
Juste les titres, moi j'ai Reine avec cœur, donc c'est l'univers du BDSM.
Oui.
Après, t'as Vaincre ses peurs, et ce qui est marrant, c'est que t'as fait avec un serpent.
C'était un super projet.
Il est beau, franchement.
En fait, c'est un projet qu'a monté une photographe.
D'accord.
Et elle voulait. La principale idée de ce projet, c'était de faire des photographies artistiques avec des animaux de compagnie atypiques.
D'accord.
Et en fait, le serpent, le premier shooting qu'on a fait. Et du coup, la tenue que porte la modèle, c'est une demande. C'est clairement une demande qu'elle m'a fait sur le projet. Ensuite, il y a eu le projet, le fameux projet Reine de Cœur.
Oui.
Et en fait, Reine de Cœur, c'était très orienté, beaucoup plus orienté BDSM, effectivement. Et en fait, bon, ça a été très compliqué parce que là, c'était avec un chat à poils de mouton, donc des poils un peu rigides. Oui. Là. Et sauf que le chat n'a pas été très conciliant pendant le shooting. Elle n'a jamais voulu poser les pieds sur le papier qui avait été posé. Elle avait très très peur du papier, donc on n'a pas réussi à faire beaucoup de photos avec le chat. Mais voilà, c'est un projet artistique qui a monté Laura de Studio Simone.
D'accord.
Et en fait, que je vous invite aussi à aller voir parce que c'est une super artiste. Oui. Et c'est quelqu'un qui a une sensibilité artistique que je trouve très touchante et à la fois très forte.
D'accord.
Donc, en général, je m'entoure de gens dont je comprends les univers.
Ouais. Et c'est toi qui écris les textes, du coup, sur ton site ?
Les textes, oui, tout à fait.
C'est toi qui as créé le site ?
Oui, la base du site, c'est un ami qui me l'a codé.
Ouais.
Mais par contre, je suis... tout ce qui est ajouté et toute la mise en page, c'est de...
D'accord.
C'est de mon ressort.
Ok, super. Ouais, parce que franchement, les textes, même, oui. Moi, le texte de Vaincre ses peurs, du coup, ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai trouvé ça plus que... Enfin, parce qu'au départ, quand on le voit, on ne voit pas les photos, je crois que c'est le texte directement.
C'est d'abord le texte, oui.
Et donc, du coup, ça m'a parlé. Après, j'ai été voir les photos, je me suis dit, oui, c'est exactement ça. Et puis, le premier projet que j'ai vu, c'était en 2020. C'était août 2020 et ça s'appelait Lumière d'été. Du coup, ça parlait de la fin d'été.
Tu viens de celui-là ? Ouais, si, Lumière d'été, en fait, c'est un shooting... à la base, c'était un simple shooting... mariage.
Ouais.
Donc il y avait plusieurs prestataires sur le shooting. Il y avait quelqu'un qui faisait qui était traiteur. Il y avait une créatrice de bijoux, de fleurs, une décoratrice. Enfin, il y avait plusieurs personnes regroupées.
Mm-hmm.
Et moi, je suis intervenue dans la lingerie que portent les deux modèles parce qu'en fait, les photographies montrent un mariage entre deux femmes. Donc du coup, j'avais trouvé ça très différent de ce qu'on peut voir sur les photos de mariage d'habitude. Donc allons-y quoi. Donc c'était habillé deux modèles au lieu de une quoi. Donc je trouvais ça davantage sympa. Oui. Et Lumière d'été, ça a été c'est un shooting qui s'est fait en fin d'année et je crois que ça s'est appelé comme ça.
Ouais.
Ça parce que elles ont beaucoup shooté à la Gonal Hour et du coup
La Golden Hour, généralement, c'est le coucher de soleil. Et oui. C'est là où tu as le plus de reflets sur la peau, etc. Donc, ça nous a fait des très jolies photos.
Ouais, franchement, voilà. c'est
magnifique. C'était un shooting qui regroupait beaucoup de prestataires différents. Ouais. Et c'était pour plusieurs créateurs, en fait. Donc, ça a été très intéressant à travailler.
Non, franchement, enfin, tous tes projets, moi, j'accroche à chaque fois. Parce que vraiment, ça reflète. Et puis, je trouve que même si ça parle d'anciens, c'est dans l'air du temps, en fait. Et puis, le sur-mesure, le prêt-à-porter. Et donc, du coup, oui, non, tout ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, j'adore tes projets. Je te remercie pour cette interview. C'était hyper sympa.
Et surtout, merci à toi.
Avec plaisir. Merci à toi. Ma dernière question habituelle, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu t'aimes ?
Je pense que la réponse est oui. Mais je la mettrais entre guillemets de par mon plus grand défaut. Alors oui, c'est certain que je m'aime parce que
t'as travaillé sur toi.
Cette expérience professionnelle m'a fait beaucoup de bien sur moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en suis servie comme exutoire, je m'en suis servie comme façon d'être capable de faire quelque chose de moi-même et que personne n'intervienne. C'était très important pour moi et effectivement, je me suis trouvée en tant que personne dans ce projet. Je me suis affirmée en tant que femme, ça c'est certain. J'ai assumé davantage des choses que je ne pensais pas assumer il y a quelques années. Enfin, c'est-à-dire que j'ai assumé beaucoup de mon érotisme, c'est-à-dire que de travailler sur un corps féminin et de travailler sur de la lingerie féminine, donc des choses... On touche à l'érotisme, on touche au corps de la femme, on touche à l'érotisme. Donc en fait, moi, ça m'a permis de me dire, mais ouais, enfin, il y a un moment donné, tous les corps de femmes sont beaux de leur manière, à chacun de leur manière. Et moi, personnellement, oui, ça m'a beaucoup aidée à m'accepter. Enfin, j'ai fait beaucoup de complexes enfant, même si je sais que j'ai pas de raison aujourd'hui d'être complexée. Mais il y a beaucoup de choses sur mon corps que je n'accepte pas encore, donc il va falloir que je travaille. Mais je pense que ce projet professionnel m'a permis aussi d'avoir un œil différent sur moi-même, sur ma manière d'être dans la vie de tous les jours, sur mon physique. Et m'a poussée en fait à me dépasser et à m'accepter. Donc ça a été un bénéfice absolu pour moi-même en fait. Donc oui, je m'aime à l'heure actuelle. Avec des petits points. C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne veux pas...
C'est pas linéaire de toute façon.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement. Je ne veux pas rendre ça linéaire. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est ce que...
Oui.
Voilà.
Oui. Mais enfin, on a tous des baisses de morale. Moi, je vais te dire que dans mon premier épisode, je disais que j'étais à 100% les trois quarts du temps. Mais il y a des fois où je suis à 95, 90. Ouais. Des fois, tu peux être à 105 parce que tu t'aimes vraiment. Mais chaque jour est différent, c'est pour ça que aucun jour ne se ressemble, donc forcément tu peux pas être tous les jours dans quelque chose de... Et c'est pour ça quand les femmes elles viennent chez toi, elles sont au départ peut-être à 90 et peut-être qu'elles repartent à 110 ou 115, c'est comme toi.
Bien sûr.
C'est juste que ça donne l'impression, effectivement, comme tu as créé ton entreprise, que tu as confiance en toi, etc. Mais c'est ce que vraiment je voulais aussi qu'on ressorte aujourd'hui, c'est que... Enfin voilà, l'amour de soi, c'est pas simplement, c'est pas linéaire, c'est un apprentissage de tous les jours, c'est du développement personnel aussi, donc je comprends que, j'imagine que ça t'a apporté, oui, le professionnel t'a apporté personnellement aussi, j'imagine aussi, donc, et puis créer de la lingerie aussi, j'imagine que ça doit être tellement un univers tellement, enfin voilà, c'est un univers très proche du corps, de la nudité, donc forcément, ça t'a, à toi aussi, ça doit te remettre en question, j'imagine.
Bien sûr.
Donc merci pour tout ça, merci Héloïse. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, ou pas spécialement ?
Aimez-vous, tout simplement.
C'est beau.
C'est la clé.
C'est très beau.
C'est difficile, mais c'est la clé.
C'est ça. Merci pour ces mots. Je vous dis à très bientôt. Amour, Isa.
Amour. Amour.
Amour.
Amour.
Amour.